Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast, bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Nelly Saunier. Nelly Saunier est plumassière, maître d'art, lauréate du prix Bettencourt pour l'intelligence de la main. Nelly Saunier a attrapé la sensibilité et la délicatesse de sa matière. C'est aussi une grande technicienne qui a enseigné son art pendant 26 ans. Si vous nous écoutez, vous le savez, la technique et la poésie s'allient dans le destin d'un artisan d'art. Ce destin-là se raconte en volutes et en échappées. Comme les oiseaux qu'elle célèbre à travers ses natures transformées, Nelly Saunier ne se laisse saisir que pour mieux s'envoler. Bonjour Nelly Saunier.
Bonjour Raphaël.
Vous faites partie des artisanes d'art que j'ai rencontrées au tout début de quand j'ai commencé à mettre le nez dans les métiers d'art. Mmh. J'ai l'impression qu'on se connaît très bien, mais en réalité, on se connaît peu.
Mmh.
Dans les métiers d'art, tout le monde vous connaît. Moi, j'ai l'impression que je vous connais parce que vous êtes la madame plumassière des métiers d'art depuis longtemps, depuis que moi, je suis dans les métiers d'art. Et J'admire beaucoup votre travail. On a eu le plaisir de se croiser parce que vous aviez amené des journalistes chez nous, chez Duvelroy, alors qu'on avait à peine commencé à remonter la maison. Et je parle de ça il y a 12 ans.
Mmh.
Et là, enfin, j'atterris chez vous pour ce podcast. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous podcaster. Et J'arrive toute innocente parce que je ne sais rien de votre histoire. Donc voilà. Voilà une longue introduction pour vous demander comment la matière est arrivée dans votre vie et à quel moment.
Alors la matière plume, elle est arrivée dans ma vie, je crois que c'était très très jeune. Je vivais dans les jardins de Sucy, qui est dans le Val-de-Marne, avec ma petite famille. On vivait dans une petite maison qui était entourée de jardins arborés, des jardins un peu sauvages. Les voisins n'avaient pas construit de maison, c'était un peu à l'abandon. C'était un immense terrain de jeu pour des enfants. On était deux avec mon frère, très très proches puisqu'on a 13 mois d'écart. Et on était comme deux poussins collés, toujours à tout faire ensemble. Et on jouait énormément dehors. On avait une toute petite maison, des toutes petites chambres, on ne pouvait pas jouer, on avait très peu de jouets. Donc notre grand terrain de jeu, c'était tout ce qui était alentour. On vivait dans un petit sentier, donc on avait un périmètre de jeu aussi attribué. On n'avait pas le droit de sortir de ce petit sentier. Les jardins de Sucy, c'était là où les gens venaient en week-end pour jardiner, mettaient des vignes pour faire leur vin, des choses comme ça.
Donc pour vous, la matière et le début de la matière, en fait, c'est la nature.
C'est la nature. Bien sûr, maintenant, je peux le dire, mais à l'époque, c'était comme une nourriture spirituelle, c'était quelque chose qui me nourrissait, qui m'apprenait. En fait, j'ai beaucoup observé la nature. J'étais une petite fille extrêmement curieuse, extrêmement attentive, et puis extrêmement sage, puisque j'avais une famille qui était assez autoritaire sur ce genre de choses, où je devais surtout pas bouger. Je devais être très sage. C'était tout le temps, tu dois être sage, tu dois pas bouger, tu dois rien demander. Mais dès qu'on était en liberté, tout était ouvert pour la découverte. En fait, ça m'a nourri énormément. Je le vois encore aujourd'hui à quel point moi et mon frère d'ailleurs, on est liés à cette nature qui nous a nourris de détails comme bien sûr les saisons. Moi je vivais au rythme des saisons, les fleurs qui poussent, les fruits qui naissent, goûter les choses, les toucher, se piquer dans les ronces, se piquer dans les orties, sauter des arbres, monter dans tous les arbres. J'ai grimpé absolument dans tous les arbres que j'ai nommés d'ailleurs. Je disais, là, c'est la girafe, puisque c'était un arbre très haut perché. L'autre, c'était un lierre couché sur lequel on montait. Je disais à mon frère, vas-y, on est sur un éléphant. Enfin, on inventait des histoires incroyables. Et c'était... C'était fabuleux. Enfin, moi, j'ai des superbes souvenirs de tout ça.
Et c'est vrai que vous me dites tout ça, on est dans votre atelier. Et en fait, vos œuvres, c'est tous les souvenirs que vous me racontez. Je le vois là, je les vois tout autour de vous, ces arbres, ces lierres, presque ces ronces. En fait, vous la reconstituez, vous la recréez, cette nature, à travers votre travail aujourd'hui.
J'ai eu la chance d'aller en résidence à la Villa Kuriyama au Japon pendant 4 mois. Et je devais partir pour faire un travail autour du tissage, tisser un lien avec le fil et la plume. C'était mon projet, c'était des choses qui avaient été écrites et décrites pour le faire. Et malheureusement, je n'ai pas rencontré d'artisans tisseurs. En revanche, je suis à peine arrivée que j'ai rencontré Maître Shuo, qui est un maître de l'art de l'Ikebana, la voie des fleurs, qui m'a tout de suite fait une proposition pour les Nuits Blanches de Kyoto. Je suis arrivée en septembre et en octobre, on avait cet événement d'une nuit blanche. Et je la connaissais puisque je l'avais rencontrée à Paris. J'avais pu voir son travail au musée Guimet. Ça m'avait beaucoup impressionnée. J'avais vu comme une prêtresse, comme quelqu'un d'extrêmement centré. C'était assez incroyable. Et on a bien sûr discuté. Et je me suis tout de suite posé la question, qu'est-ce que ferait un maître d'Ikebana avec une de mes natures transformées, qui ne s'appelait pas comme ça au départ? C'est-à-dire un faux semblant, un trompe-l'œil, c'est-à-dire une fleur faite de nature, mais plume, sur une branche, au naturel ou façonnée, puisque l'art de la plumasserie permet aussi de faire de la monture, ce qu'on appelle de la monture. Donc on imite quelque chose issu de la nature, mais avec de la nature. Et cette question, elle est restée en moi comme ça, et puis c'est resté flottant pendant 2 ans. Et quand j'ai été lauréate de cette fondation pour faire ça, j'ai re-rencontré Shuo qui m'a contactée. Enfin, c'était assez fou, quoi. Et en fait, on est parti dans l'aventure. J'ai créé la scénographie, je l'ai habillée, j'ai créé cette coiffe qu'on voit là.
Vous pouvez nous la décrire?
Alors, cette coiffe, c'est un port de tête. L'effigie d'une grue, mais revisitée un petit peu. La grue, c'est le symbole de l'amitié au Japon.
Et on a le bec de l'oiseau sur le sommet du crâne.
Oui.
Et les deux ailes déployées en très en hauteur,
oui,
qui viennent de part et d'autre de la tête de l'oiseau.
Oui, comme une continuité de la coiffe. Et ses cheveux, j'avais imaginé que ses cheveux, parce qu'elle a des immenses cheveux noirs, les japonaises ont des cheveux extraordinaires, je suis fan des cheveux, des plumes, enfin, bref. Et donc, ses cheveux faisaient la continuité de la queue de l'oiseau, dans lequel j'ai inséré des plumes aussi.
Donc, alors, on a compris, une famille un peu cadrée, stricte, et une envie de nature, une grande liberté à l'extérieur. Alors, comment ça s'est passé au moment des études? Et puis, cette âme d'artiste que je vois aujourd'hui, j'imagine qu'elle avait déjà commencé à pousser. Vos parents ont accueilli ça avec... Comment ils ont accueilli ça?
Je pense qu'ils ont été extrêmement surpris d'un choix comme celui-là.
Alors, c'était quoi ce choix?
Le choix d'épouser une carrière de plumassière, qui était à l'époque quelque chose de... Je dis souvent ce mot déconnu, qui avait aucun sens. C'était pas un métier valorisant ni valorisé, un métier qui était en voie de disparition.
C'était un métier de petite main, en réalité, de haute couture, c'est ça, hein?
Pas forcément, puisque, bien sûr, on travaille dans des ateliers. Moi, je le savais pas à l'époque, mais oui, on est une petite main. On forme, de toute façon, ce CAP forme toujours des ouvrières dites spécialisées, en fait. Le cadre n'a toujours pas changé. L'éducation nationale n'a pas fait évoluer ce CAP. En BEP, BTS, DSA, etc. On ne forme pas actuellement à de la création par rapport à la plume. On forme des mains pour vivre la tradition, savoir coller, savoir monter, savoir découper, savoir agencer de la matière.
Et ce CAP, il date de l'époque où le marché de la plume était celui des chapeaux, essentiellement? C'est une question, en fait.
Le métier de plumassier, ça monte à la haute antiquité. Ça a toujours accompagné l'homme. La parure était d'abord un ornement pour les hommes. C'était souvent utilisé pour valoriser l'individu, prouver ce dont il était capable. Par exemple, un Indien d'Amérique du Nord, pour situer ce valeureux guerrier, il montait à 5000 mètres d'altitude, par exemple, là où vivaient les aigles. C'était une prouesse de monter, déjà, et puis une prouesse de saisir l'oiseau, de tuer l'oiseau, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est les faits et les histoires. Et puis de redescendre et de prouver aux autres ce dont il était capable. Et après, il crée une parure, et chaque élément ajouté à sa coiffe valorisait l'individu. Donc c'était une reconnaissance sociale, c'était un rang, ça l'a été beaucoup pour les hommes pendant des années, des siècles entiers. Je ne citerai pas tous les pays qui ont utilisé la plume, mais c'est un art qui a été un petit peu partout dans le monde, avec des époques particulièrement. En Chine, c'était une époque particulière où on faisait ces tiares en plume de martin pêcheur, de martin chasseur, etc. Ces bleus turquoise extraordinaires. ciselée d'éléments extrêmement complexes, enfin une beauté technique incroyable.
Mais ça, c'est l'aspect artistique avec lequel vous renouez complètement, c'est l'aspect artistique, statutaire, d'apparat de la plume. Et j'ai envie et j'adore qu'on parle de ça, mais comme là, on était en train de parler du CAP et de toutes ces personnes qui sont formées à la plumasserie traditionnelle, quand on dit plumasserie traditionnelle, c'est plus pour aller vers des métiers où la plume est appliquée, et j'imagine que ces métiers-là, c'est ceux de la haute couture autour des chapeaux et des collections, c'est ça ?
Bien sûr. Après, c'est une histoire d'époque, c'est une histoire de mode. La plumasserie, en 1979, quand j'ai commencé, ça n'avait plus de valeur.
Ouais,
il restait quelques ateliers, la maison Février, la maison Le Marié, la maison... Enfin, Legeron, il ne faisait pas encore de plumes, il était fleuriste. Mais il a racheté la maison Brateau, qui était une petite maison qui faisait des parures de tête.
Ah, c'est comme ça qu'il avait ses merveilleux stocks ?
Oui.
Parce qu'il avait des sacrés stocks de plumes, Bruno Legeron.
Oui, Bruno, une personne extrêmement généreuse, un passionné dans son univers, un très bon technicien, etc. Enfin, vraiment.
Donc là, c'est drôle parce que ces noms-là que vous nous citez aujourd'hui, Le Marié, Février, Legeron ont été rachetés par Chanel Manufacture et Février a été racheté par Le Moulin Rouge. Mais ils existent encore. Enfin,
tout
pas mais,
fait.
Grâce à ça, d'ailleurs. Ils
oui, grâce
encore.
À ça. Ouais. Grâce à ces grandes maisons de pouvoir, j'ai envie de dire, ces sociétés qui ont des vrais chiffres d'affaires et qui savent marketer tout ça, en fait. C'est grâce à ça que ce métier, il perdure, entre guillemets, et heureusement.
Oui, parce que je sais pas pourquoi je continue à ramener toujours à mon histoire de chapeau, mais ce que je veux dire, c'est que le marché des objets en plumes, il s'est doucement étiolé au cours du XXe siècle. Au XIXe siècle, les femmes avaient toutes dans leur garde-robe des accessoires avec des plumes, des éventails, des chapeaux, tous les accessoires. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc finalement, ce qui reste de ce métier aujourd'hui, c'est la création, c'est l'exceptionnel. Donc, c'est la haute couture. Donc, c'est pour ça, tout ça pour dire que c'est vrai que ce serait tout à fait logique que le CAP s'adapte à cette nouvelle réalité du marché. Mais bon, il faut quand même des petites mains. Et c'est un peu aussi une question de toutes les formations métiers d'art. C'est qu'à la fois, il faut de l'exécution parfaite et à la fois, il faut de la création et de la créativité très éclairée techniquement. Et les formations, c'est difficile de leur demander de fournir les deux dans une même formation. C'est quoi votre solution pour ça ?
Ma solution ? Moi, j'ai tenté pendant plusieurs années d'essayer de valoriser ce CAP en autre chose. J'y suis pas parvenue parce que ça nécessite de transformer le référentiel. Pour transformer ce référentiel, il faut que l'éducation nationale choisisse de le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'entreprises qui demandent et qui aient besoin concrètement de créatifs pour faire ça. Par exemple, si on voulait changer de niveau, comme en broderie. La broderie, elle a vraiment des BMA, des créatifs et des techniciennes en même temps.
Donc, ils ont réussi pour la broderie. C'est un bon exemple.
Tout à fait. On pourrait prendre cependant, moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi. Même si maintenant, on peut dire que ces maisons, enfin, c'est peut-être ce qui va arriver dans les prochaines années. Il faut rester plein d'espoir. De toute façon, moi, au tout début, c'était rien. La valorisation de ce métier, c'est aussi parce que je me suis engagée corps et âme à le faire, en fait. Il y a une chose qui est très importante dans ce parcours, je pense. Ça a été d'y croire, toujours et encore, bon gré, mal gré, les intentions ou les désaccords ou les gens qui trouvaient que ça avait plus de sens de faire ça. On me disait des fois, mais ça sert à rien ce que vous faites. Alors bien sûr, moi je vivais entourée de mon matériau de prédilection avec cette fascination qu'est la beauté des oiseaux, du plumage. Historiquement aussi, c'était mes complices. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait des Indiens qui vivaient à la même époque que moi, mais pas sur le même territoire, et qui façonnaient la plume pour des parures chamaniques ou pour des offrandes, enfin des tas de choses comme ça, qui pour moi, c'était symbolique, c'était dans ma tête. Je me disais, ah, j'ai des complices quelque part. Enfin, c'est comme une famille, comme mes pères qui étaient là-bas, puisque ici, les maisons étaient fermées. J'étais une des rares indépendantes, puisque j'ai pas construit une maison. Puis une maison, ça veut dire des ouvrières. Moi, j'ai pas la vocation d'être un chef d'entreprise. Pour moi, c'est pas du tout le profil. Ça s'est pas présenté sur mon chemin jusqu'à maintenant. En tout cas, pas de la manière dont on l'entend. Et ça a été un long travail de croyance, en fait. C'est parce que j'y croyais et parce que je défendais quelque chose au travers de l'enseignement, puisque j'enseignais 26 années dans cette école qui est un lycée professionnel unique en France, le lycée Octave Feuillet, qui forme encore et toujours à la plumasserie.
Et je crois que c'est le dernier en Europe.
Alors, j'ai jamais pu le vérifier. C'est vraiment une quête continuelle, en fait. par l'intermédiaire de rencontres ou d'échanges, justement. C'est toujours intéressant de savoir si, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, il y a énormément de modistes. Vous parliez de chapeaux. La parure chapeau, c'était le début des parades, en fait. Mmh. Quand on faisait une coiffe, c'est quand même sur la tête. Une parure de tête, quand on a créé les chapeaux, c'est aussi une parure. Les grades militaires, tous ces plumets, tous ces chapeaux les chapeaux du roi, les casques emplumés.
Les chapeaux d'apparat.
Les chapeaux d'apparat, qui distinguaient toujours l'individu. On n'avait pas la télé, les caméras, etc. On pouvait reconnaître le roi à 15 mètres à la ronde parce qu'il avait la plus haute parure sur sa tête. Donc, évidemment, ça avait un pouvoir de reconnaissance. C'était évident. Pardon, je me suis... Hop là,
envolée. Non, enfin, je suis partie avec vous. Alors, Nelly, oui, on s'est un peu paumé, mais c'est un plaisir. Hein,
On va se retrouver.
Oui, on s'est
poétique. Il y a tellement de choses à dire en même temps. C'est toute une vie, c'est 30 ans d'une vie... Ça paraît difficile de tout raconter comme ça, en un clin d'œil, quoi.
Mais bien sûr, alors je vais essayer de nous aiguiller, de nous faire juste une petite promenade dans vos souvenirs, dans votre vision, dans votre conviction sur le métier de plumassière. Puis c'est comme ça, c'est toujours très frustrant. Nous, en une heure, on essaye de faire rentrer dans un univers et j'espère que ça donnera envie à beaucoup de gens d'aller voir votre compte Instagram, Nelly Saunier, d'aller voir votre site internet, de vous acheter des œuvres. Mais bon, ça, normalement, on garde ça pour la fée clochette à la fin.
Oh, il y a une fée clochette, c'est fantastique. J'adore les fées.
C'est vrai.
C'est un univers. Je vis dans un univers un peu féerique. Les oiseaux ont toujours eu ce ressenti par rapport au regard posé. C'est-à-dire que les gens, les enfants notamment, j'ai remarqué ça, tout petit, on ramasse un caillou, une branche. Mais quand on trouve une plume, les enfants, ils vont jeter le caillou, ils vont jeter la feuille, ils vont garder la plume.
C'est vrai.
C'est incroyable. Et le nombre de personnes à qui j'ai parlé de ça me l'ont dit et confirmé.
Confirmé. J'ai une collection de plumes de pigeons rapportées par mes filles et je n'ai absolument pas le droit de les jeter.
C'est ça. Il y a de la magie, donc, quelque part.
Complètement.
Le lien à l'oiseau, le lien au vol, la légèreté de l'être, en fait. C'est un truc qui doit nous parler de nos âmes profondes. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement... magique.
Alors, je reviens au bien concret. C'est que, donc, déjà, très bizarre, vous choisissez une formation de plumassière au niveau CAP. Ça veut dire après la troisième ?
Oh oui, mon parcours, il est un petit peu atypique, c'est vrai. Non, moi, c'était après la cinquième.
Ah oui, carrément.
Ouais.
On pouvait faire ça ?
Ouais, oui, moi, j'ai pu faire ça.
D'accord.
J'ai pu faire ça avec une grande détermination, puisque en même temps, sur mon parcours d'enfant, le primaire, c'était un peu une grande abstraction, quelque chose d'un peu incohérent par rapport à cet enfant. Enfin, c'est mes souvenirs d'enfance, c'est mes émotions, c'est mes ressentis, mais je savais à quel point je savais voir des choses que je pensais même que les adultes ne voyaient pas. Puis je ne comprenais pas à quoi servaient, par exemple, les écrits. Fallait juste bien écrire. Les adultes n'étaient pas très clairs non plus sur ce sujet. Mais bon, il fallait. Et toute l'autre partie, c'était la récréation. Le dessin, la diction, la récréation. Enfin, ouais, j'adorais raconter des histoires. J'adorais la diction. Ça s'appelait comme ça à l'époque. La récitation, quoi, en fait.
D'accord.
Donc voilà, j'avais des aptitudes pour ça. Je chantais énormément. Comme disaient certaines de mes amies, mais Nelly, bien sûr, les oiseaux, ça chante.
Ah, ben oui.
C'est d'ailleurs l'animal, pour moi, le plus proche de l'homme parce qu'il peut parler et chanter. Donc moi, j'ai une affection énorme pour l'animal en tant qu'être. Bien sûr, j'utilise son matériau, sa plume, sa beauté.
On va en parler de ça. Alors, de toute façon, on fait tous les sujets mélangés.
Pardon.
Ces oiseaux que vous adorez, c'est vrai que vous utilisez leur matière, mais parfois, vous utilisez des plumes de mue. Comment on peut expliquer aux gens qui nous écoutent en quoi c'est respectueux de l'animal d'utiliser des plumes aujourd'hui ?
Alors, bien sûr, il y a une réglementation extrêmement pointue que j'invite tout à chacun à respecter, en tout cas à s'informer de comment faire, puisque c'est les jeunes qui se lancent dans la plumasserie doivent le savoir d'une manière ou d'une autre. Je pense que maintenant, on en a suffisamment parlé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup annoncé. Et je pense que le filon est lancé, mais les oiseaux perdent leurs plumes 2 à 3 fois par an. Ça dépend des espèces. Et donc, les plumes de mue tombent. Alors, bien sûr, c'est une récolte assez fastidieuse, mais ça fait partie de la possibilité pour acquérir des plumes. C'est très long.
Et du coup, c'est cher.
C'est très long, ça peut être très cher, mais ça, c'est lié aux espèces. C'est lié aux éleveurs qui vont choisir une catégorie d'oiseaux qui sont de plus en plus rares. Moi, j'adorerais qu'il y ait des volières avec des oies extraordinaires, parce que la plume d'oie, c'est quand même une très belle matière. C'est un oiseau domestiqué, etc. Bien sûr... Donc voilà, ça pourrait être très beau, puisque ça, ce sont des oiseaux qui sont voués à la consommation, c'est-à-dire qu'on va les manger.
Oui, donc là, c'est l'autre catégorie. Il y a les oiseaux pour lesquels on utilise les plumes de mue, c'est ceux qui ne sont pas consommés. Et les oiseaux qui sont consommés, ils sont consommés et on récupère en réalité leurs plumes.
Tout à fait. La poule, le coq, la pintade, la perdrix, okay, le dindon, la dinde, plein d'oiseaux comme ça qui sont liés à la nourriture en fait. Donc ce déchet qui passait en literie bien souvent ou qui était utilisé, ramassé dans toutes les fermes avaient poules, oies, canards pour la consommation personnelle, pour les œufs, etc. Et puis les plumes, quand ils avaient tué la bête pour le poulet du dimanche, gardaient les plumes dans des balles. Et puis, c'était un ramassage de balles dans toutes les fermes qui étaient vouées à la literie. On faisait des coussins, on faisait des couettes, des édredons, des choses comme ça. Maintenant, on est tous affublés d'une doudoune qui est en plume de canard, en fait. Mmh. À plus ou moins belle qualité, des oiseaux qui viennent un peu du monde entier. Et la Chine est un énorme fournisseur de plumes, mais à l'échelle d'un pays comme la Chine, ça n'est pas étonnant, en fait. Mmh. Donc voilà, il nous reste des sources. C'est très difficile de connaître les sources d'approvisionnement. Les professionnels, pendant des années, ne nous ont pas dit d'où venaient les oiseaux. Moi, j'ai dû batailler pour savoir d'où ils venaient, comprendre. Et encore, si j'ai pu rentrer dans les usines, ce qui est très, très difficile, en fait, on ne nous laisse pas rentrer. Donc, c'est des connaissances qu'on engrange petit à petit. Le traité de Washington protège depuis 1913, je crois, ou 1912, protège les espèces. Avec un traité qui est mondial quand même. Donc c'est important aussi que ça soit sur toute la planète, puisque ces oiseaux ont été emmenés sur nos territoires. On les a un peu transformés quelquefois. On a utilisé la matière en créant des extensions, en mélangeant des espèces, en faisant ce qu'on appelle les oiseaux hybrides. Les oiseaux hybrides sont issus des espèces de base, mais qui ont été,
croisés.
Qui ont été croisés avec, par exemple, la plus belle femelle et le plus beau mâle pour avoir des plumes les plus extraordinaires. Après, ça peut être juste pour l'agrément. Pour les parcs. Voilà, les parcs ont été créés quand les conquistadors, par exemple, ont rencontré les Mayas, ces peuples qui faisaient déjà de l'élevage. Pour les parcs, ils arboraient des parcs, ils faisaient des faux lacs pour mettre des oiseaux, pour pouvoir extirper les plumes, parce que la plume, pour eux, représentait un symbole très fort qui parlait de leur dieu soleil. Tout simplement parce qu'elle reflétait la lumière plus fort que l'or et les pierres précieuses. Donc c'était une valeur extraordinaire. Et donc, toutes ces rencontres des deux continents et de ces parcs ont fait naître chez nous des parcs arborés où on mettait aussi des oiseaux, on créait des faux lacs, etc. Et on a commencé à mettre les oiseaux dans des parcs, tout de la même manière. Enfin voilà, c'était complètement d'agrément. Après, dans les parcs, ils n'utilisaient pas forcément les plumes pour faire des parures. Mais bon, après, c'est toutes les rencontres, les découvertes, la route de la soie, des épices, tout le bassin méditerranéen.
Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver vos plumes. Vous avez vos circuits, vos fournisseurs habituels.
C'est difficile de trouver des belles plumes.
Ouais.
Je trouve que depuis quelques années, on a vraiment une perte énorme. Mais je pense que c'est lié à la qualité de ce qu'on consomme. Mmh. C'est-à-dire, nos poulets ne sont plus très beaux. Ils prennent des coques ou des poulets. Ça s'appelle des coups nus. C'est une espèce qui n'a pas de plume sur le cou. Oui. Et cette plume, nous, on l'adore parce que c'est une plume dite de collet. C'est un terme employé en plumasserie. La plumasserie a son langage. Et puis, nominatif des plumes, ce n'est pas de l'ornithologie. Hein. Ces plumes de collet, ben, on n'en a plus. Et puis, oui, c'est de très mauvaise qualité. Quoi. C'est mal trié. Avant, c'est des métiers complexes parce qu'il y avait toutes ces usines qui triaient, qui lavaient, qui enfilaient les plumes. On les avait calibrées, les droites, les gauches. Enfin, c'était généreux, facile pour travailler, pour une plumassière. Sinon, c'est chronophage. On est obligé, quand on achète un sac de plumes, on demande de l'oie et on a dedans un peu de tout. Ah et oui. Puis de qualité très mauvaise. Quoi. Ouais, c'est comme nos cheveux, en fait. Si on est mal nourri, nos cheveux ne sont pas épais, ne sont pas brillants, sont pas... Voilà. Puis ça dépend de la maturité de l'oiseau. Pour avoir des belles plumes...
Faut pas qu'on les tue trop jeunes.
Ben non, on peut pas consommer l'oiseau après.
Ouais.
Un vieux coq, par exemple, dans les fermes, on le faisait cuire des milliers d'heures parce que c'était une bête dure, en fait. C'était une chair difficile à consommer. Mais son plumage était juste magnifique, quoi.
Et du coup, vous cherchez des plumes anciennes? Je sais que vous en avez beaucoup. Là, je suis dans votre atelier, il y en a du sol au plafond. Et c'est un plafond qui doit être à 6,50 m.
On est à 5,80 m, oui.
Et voilà, 5,80 m. Et il y a des boîtes de plumes du sol au plafond. Donc ça, c'est une collection que vous avez constituée tout au long de votre carrière, j'imagine.
Oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Oui, bien sûr, des plumes anciennes, il y a eu beaucoup les brocantes. Mais il faut se méfier de ces choses-là, parce qu'on doit vraiment avoir une traçabilité de toutes choses. Et ça, c'est assez complexe.
Donc, mais oui, ça... sinon, on ne peut pas les revendre, c'est ça qu'il faut qu'on explique.
On ne peut pas façonner avec, ou pas facilement. Et puis même si ça se fait, ça peut se faire. Il faut une traçabilité vraiment précise, quoi.
Sinon, ça ne peut pas voyager. Pour chaque objet en plume, on doit expliquer où a été élevé l'oiseau, où vous êtes. Donc, la plume, évidemment l'espèce.
Tout à fait. Ouais. C'est assez chronophage, toutes ces petites choses. Mis bout à bout, un atelier comme le mien, par exemple, moi, je fais toute la chaîne de fabrication. Je suis de l'oiseau qu'on m'amène entier. Donc, je fais le tannage, le lavage, le séchage. Et puis, j'ai une qualité de matière première qui est exceptionnelle. C'est un peu l'idée. Dans l'excellence, finalement, avec toutes ces années, c'est de plus en plus affiné mon travail.
Comment vous avez eu les premiers sous pour monter votre atelier ?
Oh, c'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. D'abord, j'ai fait un CAP de plumasserie.
Ouais.
Ensuite, j'ai été repérée par un de mes professeurs de dessin, qui s'appelle Madame Chavat, qui a repéré une espèce de fougue. Elle me donnait un dessin, j'en amenais trois. Elle voyait que j'avais quelque chose qui était un petit peu différent, une espèce de volonté de faire. Oui, j'étais très avide de savoir, de m'exprimer. C'était, je pense que mes messages à l'époque, j'étais extrêmement timide, je parlais très peu. J'agissais en fait, il fallait que je fasse. Pour exister, il fallait faire. Exister dans le sens personnel, exister aux yeux des autres, puisque de toute façon, on nous qualifie par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on donne comme résultat de se faire. Donc, cette prof m'a fait une proposition après ces 3 années d'apprentissage. Est-ce que tu voudrais rentrer aux arts appliqués ? J'ai dit oui, instantanément. Les arts appliqués, Olivier de Serres. Donc, j'ai fait un dossier personnel. Donc, j'ai dû beaucoup travailler pour apprendre des techniques, montrer ce dont j'étais capable pour présenter cette entrée dans cette grande école. Bien sûr, j'ai été reçue. Et puis, je suis arrivée dans le grand bain, en fait, dans une école gigantesque. C'était très impressionnant pour moi d'entrer à Olivier de Serres. Et puis là, j'ai nourri des techniques, j'ai nourri des recherches. J'ai jamais quitté la plume. Elle a fait partie de mon travail parce que je suis passée dans tous les ateliers à peu près Olivier de Serres pendant un an et demi. Et puis, j'ai choisi l'art textile qui correspondait complètement à des sources qui sont en moi, comme la couleur, le travail de la couleur. Je suis une coloriste. Je pense que cette nature, elle m'a aussi appris ça.
Ouais.
Et donc, j'ai choisi le textile et j'ai créé les premiers tissus en textile plumes, avec des vraies plumes.
Ouais.
C'était un projet, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de machine pour reproduire, on n'avait pas de scanner. Tout était fait de plumes à motifs. Et voilà, c'était le rêve de dire un jour, peut-être que ça existera. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs présenté à Jean-Paul Gaultier quand il me dit « Nelly, qu'est-ce qu'on peut faire avec des plumes ?» J'ai dit, mais tout ce que vous voulez, Jean-Paul.
Et comment il arrive en face de vous, Jean-Paul Gaultier?
Ça, c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire.
Mais on en a beaucoup à raconter.
Mon Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une autre histoire. C'est un jour, un nouveau professeur de mathématiques arrive au lycée Octave Feuillet, qui était chanteur à ses heures perdues, et qui me dit, Nelly, je vais chanter pour la première partie du spectacle d'Yvette Horner, qui sera au Casino de Paris. Il adorerait ton travail. J'ai dit, mais qui adorerait mon travail? Ben Jean-Paul Gaultier, parce qu'il adore les plumes. J'ai dit, ah bon, très bien, fantastique. Et il me dit, ben viens dîner, on va chez le producteur. Et puis, je lui dis, ben si Jean-Paul Gaultier est intéressé par un travail de plumes, pourquoi pas? Il me dit, mais non, mais c'est vous qui allez appeler Jean-Paul Gaultier. J'ai dit, bah oui, très bien. Donc, il me donne le téléphone de Jean-Paul Gaultier, je l'appelle. Et puis l'aventure est commencée comme ça. Le soir, j'ai le numéro, le lendemain matin, j'appelle. Et à 18h, j'ai un rendez-vous. À l'époque, c'était Galerie Vivienne, il était encore dans le prêt-à-porter. Et voilà notre première rencontre, et j'ai travaillé gratuitement pendant des heures et des heures. Je donnais mes cours la journée, et le soir, j'arrivais à Galerie Vivienne, je montais dans les coulisses là-haut, et je travaillais debout toute la nuit sur une table à repasser, et je faisais les pièces qu'il me demandait à 19h30 le soir, et le lendemain matin, j'avais fini, je me toilettais, et je redonnais mes cours, et je revenais, et je ne sais même plus combien de temps ça a duré.
Mais pourquoi gratuitement ?
Parce que la production, c'était Yves Mourouzi, que c'était pas prévu au programme, que c'était, voilà. Enfin, moi, j'ai fait énormément de choses, faut le savoir, parce que je suis une passionnée et que une personne, n'importe laquelle, hein, qu'elle s'appelle Jean-Paul, qu'elle s'appelle Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui me dit, je voudrais ça. Moi, c'était, tout de suite, c'est comme ça. L'important pour moi, c'est la rencontre humaine. J'ai besoin de cette vibration de l'autre. Parce qu'il a un besoin, parce qu'il a une envie, parce qu'il ne sait pas le faire, parce qu'il a besoin d'idées, parce que c'est un sujet que moi, je me suis nourrie de ce sujet tout le temps, dans toute chose, en fait. J'ai passé beaucoup de temps enfermée à chercher, à découvrir, à m'imaginer des choses, des voyages que je n'ai pas faits. J'ai voyagé dans ma tête. Et quand on me demande, bah, toutes les étincelles sont là. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Après, on fait bien, moins bien, on réussit plus ou moins, etc. Mais c'est... D'être généreux, ça n'a jamais été quelque chose de négatif.
Ouais.
Puisqu'après, bien sûr, j'ai quand même travaillé 17 ans pour Jean-Paul, 17 ans de collaboration sur des projets les plus fous les uns que les autres, en faisant, en même temps, j'enseignais, hein. Donc des charrettes invraisemblable. Oui, toutes les vacances étaient consacrées au travail en parallèle.
Et donc le rythme de la haute couture est très particulier. C'est comme les créateurs captent l'air du temps par définition, c'est pas 8 mois avant, c'est maintenant.
Non, non, non.
Et donc les plumassières et les brodeuses qui interviennent à la fin sont en général à travailler la nuit, un peu comme ce que vous nous décrivez.
Oh là là,
okay. Donc en fait, c'est un investissement, puisque si vous nous dites que vous avez travaillé avec lui pendant 17 ans après.
Oui. Oui, c'est comme
vous
ça
avez
que
été récompensé.
C'est comme ça qu'est né, comme vous me demandiez, comment est né mon atelier en fait. Quand on est prof, on pouvait pas avoir n'importe quel statut.
Ah oui.
Le seul statut que je pouvais avoir en étant dans les deux, c'était être artiste.
D'accord.
C'est-à-dire avoir un statut d'artiste. Ouais. Et moi, je suis artiste plasticienne. J'ai mis 10 ans avant de me lancer en disant mais tout le monde me disait mais non, c'est pas possible, tu peux pas, c'est pas possible. Puis quand j'ai eu fait toutes ces choses, que j'ai eu des photos de toutes ces pièces que j'ai fait, notamment pour Jean-Paul et d'autres. Je suis allée à la maison des artistes, ils m'ont reçue, ils m'ont demandé « qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « là, j'ai créé ces effets-là, là, j'ai proposé ceci. » En fait, je faisais ni le vêtement, ni la chaussure.
Ouais.
Je faisais des effets de matière avec un matériau qui était la plume. Et ensuite, ils m'ont dit « vous êtes plasticienne ». J'ai mis 10 ans avant de pouvoir entrer là, avant d'y croire en fait.
Ouais.
Et pour moi, c'était être généreuse de travailler pour les uns ou les autres, en dehors de l'enseignement qui, lui, était un travail pour moi extrêmement sérieux, studieux. Mmh. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment voulu, et c'était peut-être un peu dur pour mes élèves, je m'en excuse si toutefois elles sont à l'écoute, parce que j'ai été très exigeante. Puis j'étais très jeune, j'ai commencé à 24 ans l'enseignement.
Ouais. Et moi, le seul de vos élèves que je connais, c'est un garçon.
J'ai eu 5 garçons. J'ai eu 5 garçons sur toute ma carrière d'enseignante. J'ai eu 5 garçons qui ont choisi la plumasserie. Je connais celui dont vous parlez. Maxime.
Maxime Leroy.
Maxime Leroy qui a été. Lui, c'est comment dire. D'abord, il a tellement insisté pour venir. Ça n'existait pas en fait. C'est un peu grâce à Maxime que d'autres sections, pour moi, sont rentrées, d'autres niveaux d'élèves sont rentrés un peu.
Pourquoi ça n'existait pas? Il avait quel niveau?
Parce qu'il rentrait avec un bagage qui était différent. Il sortait pas de 5e, 3e.
Il sortait de quoi, lui?
Il avait un bac ou quelque chose.
Ah oui, il était trop formé, en fait. Vous n'avez pas des élèves de stage là?
Non, en fait, les niveaux de recrutement pour ces sections, à l'époque, là aujourd'hui, je ne saurais pas dire, ça a dû vraiment changer. Mais c'était une sortie de 5e, 3e, 4e, etc.
D'accord.
C'était comme ça, puisque c'est un CAP. C'est pas au niveau du travail, en fait. Mmh. C'est au niveau de l'enseignement général. C'est toutes ces choses qui sont difficiles à faire entendre à Maxime, par exemple, parce que lui, il en a souffert de ça aussi. Puis, il a tellement insisté. Ils étaient deux, je me souviens. Il y a Maxime et Prune qui sont arrivés en même temps, qui sont un peu mes chouchous, quelque part. Enfin, j'y pense souvent. Enfin, on s'appelle pas, on n'est pas assez complices, mais je sais qu'ils ont des vies bien remplies. On a des petits moments comme ça de partage. Ils suivent leur voie, ils sont reconnaissants. Ils ont attrapé cette qualité en fait. Je suis contente parce qu'ils ont, voilà, ils sont restés sur la ligne de cet enseignement dont je décrivais tout à l'heure, cette aptitude à dire voilà, un placement de doigt, c'est comme ça, on tient une pince comme ceci. Parce que je voulais que ça soit transmis comme on me l'avait transmis, pour pas que ça se perde. Des gestes. C'est ce qu'on attend dans les métiers d'art. Un bon geste pour gagner du temps, un bon geste pour être efficace, un bon geste pour bien faire les choses, c'est très important. En tout cas pour moi. Après, on peut être autodidacte de la plumasserie, tout le monde peut travailler la plume des oiseaux, parce qu'en elle-même, c'est déjà une beauté totale. C'est extraordinairement incroyable de conception, c'est fou en termes de couleurs, de motifs, de textures. C'est un matériau qui parle, c'est un matériau vivant. On dit toujours c'est vivant, mais pourquoi c'est vivant? Pourquoi est-ce que la plume, c'est vivant? Parce que la plume, c'est quelque chose qui reste après être tombé de l'oiseau. Et elle reste telle que l'oiseau l'a donnée. Et donc, en ça, je pense qu'elle reste vivante. Elle se décatille avec le temps, mais elle reste. J'ai vu un éventail au musée du Caire, il y a quelques années, et j'ai été saisie de voir que cet éventail en plume d'autruche n'avait pas bougé. Bien sûr, il était sous une bulle, une vitrine. On soulevait la vitrine et peut-être que tout allait s'effondrer. Mais quand même, c'est quelque chose qui a perduré, sans parler des musées de Hoche qui détiennent des trésors de miniatures faits en plume par les Indiens colombiens, qui sont des pièces exceptionnelles, faites de minutie. C'est de la miniature, je ne parle pas de marqueterie, moi, je parle de miniature. D'ailleurs, c'est les termes employés. Après, chacun va de son terme. Moi, j'aime pas les petites boîtes où on veut nous enfermer. J'ai jamais été dans une petite boîte, en fait. J'ai un statut, je me dis artiste, mais c'est pas moi qui le dis, c'est mon statut. Je fais de l'artisanat, je fais ce que vous voulez, je serai ce que vous voulez. L'important pour moi, c'est de faire.
Oui.
C'est d'exister au travers du faire, au travers de l'autre, au travers de l'émotion, du besoin. Et puis, ce sont des messagers, tous ces objets qui rentrent dans un univers dit créatif ou symbolique ou mystique. Et des fois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent une coiffe avec des plumes qui viennent d'Afrique, qui ont été données par un chaman. Ils veulent que je construise une coiffe avec des liens, des ficelles, des choses pour faire des prières. J'ai reçu tout un tas de gens très, très différents. De la restauration, je suis au musée du Louvre avec le chasse-mouche du XVIIIe siècle où j'ai fait le fac-similé, des pièces... Voilà, des pièces où les gens venaient par rapport à cette acuité, par rapport à cette sensation. Mmh. Moi, je suis une intuitive aussi. Je reconnais, je me documente, je regarde toutes ces choses. Elles ont fait leur chemin autour de toutes ces années. C'est passionnel. Moi, j'ai consacré toute ma vie à ce métier, en fait. Ça fait 30 ans, j'ai pas créé de famille. Ma famille ou mes enfants sont mes œuvres. Enfin, c'est toujours un peu un lieu commun de dire ça. Mais...
Non, c'est pas du tout un lieu commun. C'est, ça, c'est votre destin.
Oui, c'est ça. J'ai pas cherché à le pousser, j'ai pas cherché à être quelque chose d'exceptionnel. Je suis habitée par quelque chose qui me dépasse, en fait. J'ai besoin de ça pour me sentir vivante. J'ai besoin de mettre en exergue cette beauté que nous offre la nature, partir d'un élément qui va disparaître, comme un bois lavé, un bois déchiré par la mer, une branche qui est décatie dans la forêt, quelque chose qui... une feuille qui est percée, trouée, qui va... Moi, je stabilise cette chose. Bien sûr, je raconte des histoires autour de ça, puis j'y ajoute une patte, une intention, une composition, quelque chose qui me ravit, pour ravir les autres, en fait. Je le fais pas pour moi. C'est très instinctif, ça parle de choses toutes simples, en fait.
Quand on est passionné comme ça, quand vous dites que c'est une évidence que pour vous, travailler, c'est vivre, c'est respirer, et ouais. que vous ne le faites pas pour le montant à la fin du devis, c'est évident. Mais n'empêche qu'il faut le payer, ce loyer, qu'il faut la payer, cette vie, il faut vivre. Comment vous avez réussi avec, avec votre l'oiseau merveilleux que je vois en face de moi, comment on a réussi à construire un nid solide?
Oh là là, c'est très récent, et en même temps, ça a été de longue haleine, en fait. J'ai toujours été très précautionneuse avec ces petits moyens que j'avais, parce que c'est vraiment des petits moyens. J'ai jamais pu dépasser un centime, donc j'ai pas beaucoup vécu en termes de vie, de promenade, je sais pas. Je suis restée centrée sur mon travail.
Vous n'avez pas beaucoup dépensé de sous déjà,
c'est ça? Bah, je pouvais pas, parce que j'en avais pas beaucoup. Ouais. En fait, j'ai toujours eu des charges énormes pour l'atelier. J'ai toujours eu besoin de beaucoup de place parce qu'évidemment, une boîte plus une boîte plus une boîte plus une œuvre plus un truc plus... Ça a toujours été ma condition pour rester en vie et puis toujours y croire. Donc, j'ai un peu fait des sacrifices, en fait.
Oui.
Ça n'a pas été simple. Et puis, il y a eu des aventures qui m'ont propulsée, des choses qui m'ont permis de gagner un peu mieux ma vie. Et puis, des rencontres humaines qui sont venues un peu m'épauler pendant quelques années pour m'aider à mieux respirer, en fait. Parce que quand, d'un seul coup, on vous demande de faire... 12 pièces par mois, et puis d'un seul coup, on passe à 38 par mois, et qu'on est toute seule, et que c'est que pendant les vacances ou les week-ends, ou les soirées, c'est pas assez. D'un seul coup, je prends une décision un peu difficile de dire je vais prendre une année de disponibilité, je pourrais pas suivre la commande. Et là, tout bascule. D'un seul coup, je me retrouve H24, 13h, 15h sur ma chaise, pendant 3 ans, à pas quitter mon poste. Pour réaliser ces pièces d'exception qui, d'un seul coup, ont fait... À Baseltoff, ça a été...
C'était pour qui, ça?
Ça, c'était pour Harry Winston.
Harry Winston.
D'un seul coup, je suis sollicitée par ces gens qui viennent vers moi en me demandant d'introduire des plumes dans un cadran de montre et de faire une énorme pièce pour un projet pour eux autour de diamants. Donc, d'un seul coup, là, on va dans un univers... Parce que moi, j'avais fait des... Mon Dieu. Aux Arzas, j'avais fait tout un dossier sur les bijoux. C'est étonnant, d'ailleurs, quand j'y repense. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais quelque part, il y a une destinée. Les choses, c'est comme un chemin tracé. Je suis vraiment un oiseau libre. Le vent m'emmène là, je vais là. D'un seul coup, quelqu'un vient à moi et me dit « bijoux, plumes, Bien sûr, l'histoire des bijoux et de la parure m'intéresse profondément. Les maharajas, le diamant, les aigrettes, c'est toutes des choses extrêmement simples qu'on venait piocher dans la plumasserie, mais qui n'étaient pas complètement dédiées. On n'avait pas de la création autour du sujet. On n'a pas poussé aussi loin ce sujet. Et du coup, là, on me demande ça. Je dis, oh, trésor, magnifique, génial, j'y vais. Voilà, toujours cet enthousiasme un peu fou de dire, relever des challenges, ça a toujours été ma vie de relever des challenges, quels qu'ils soient. Hein. Quand je fais les contes d'Hoffmann avec mes élèves et que je sais pas faire des chapeaux et que je fais des coiffes, je fais 35 diadèmes, des choses complètement folles, enfin, pendant des mois, des jours, des nuits, mais même dans l'enseignement, enfin, je veux dire, que ça soit pour la haute couture, où je fais 9 nuits blanches sans m'arrêter, où je suis défaite sans me rendre compte que c'est dangereux de pas dormir pendant 9 nuits. Moi, je le sais même pas à 30 ans qu'on peut mourir de ça.
Oui.
Je l'ai su à 45 ans. Voilà, c'est sûr que maintenant, les nuits blanches, je dors très peu, mais les nuits blanches, c'est plus viable pour moi. J'ai plus 30 ans. Pardon, j'ai digressé encore. Je suis partie.
Non, j'ai pris l'habitude, je vais rattraper mon petit oiseau.
Je sais plus où je suis allée, là. Oh non, je suis infernale, hein, c'est difficile de m'attraper.
C'est impossible, même. C'est pas grave, on se promène avec vous, on s'envole avec vous.
Ouais.
On a parlé quand même de rencontres et de personnes qui vous ont épaulée. C'est une question que j'aime beaucoup poser ici. C'est les anges gardiens. Les gens qui, sur votre route, vous ont tenu la main, vous ont tenu une porte. Est-ce qu'il y a des noms que vous auriez envie de donner aujourd'hui pour les remercier?
Ah, ben, mes enseignants ont su voir en moi quelque chose de fougueux, quelque chose de très fort, en étant une petite fille extrêmement timide. Ça, je ne les remercierai jamais assez. Jamais. Croire en moi, c'est là où mes parents n'ont peut-être pas cru en moi. Ils m'ont peut-être un peu délaissée. J'étais dans mon univers intérieur, en fait. On ne pouvait pas partager. C'était pas possible.
Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris.
C'est comme ça, c'est leur vie, c'est leur construction. Moi, en moi, je savais et je sentais surtout. Voilà, c'est ça, c'est inscrit. C'était écrit quand on m'a dit, c'était une évidence pour moi. Quand on me dit, mais comment tu peux choisir ça? Je ne sais pas, c'est évident. C'est quelque chose qui vient du cœur.
Mais vous en avez entendu parler? Comment vous saviez que ça existait?
Non, pas du tout. Non, j'en ai pas entendu parler. J'ai cherché un métier de la main toute jeune. Parce que j'avais des tonnes d'aptitudes. Et quand j'ai rencontré cette formation au lycée Octave Feuillet, j'ai su instantanément, c'était le lien d'un seul coup, les oiseaux, la nature, les arbres, les pioux, enfin tout ce que j'aimais, tout ce qui me touchait, cette finesse, cette sensibilité, cette façon de toucher les choses. La plume, c'est un élément extrêmement tendre en même temps.
Alors, on revient sur nos anges gardiens. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un ange gardien. Je ne sais pas si vous le mettriez dans cette catégorie-là, mais je sais que le prix Bettencourt a été important dans votre vie.
Oui,
vous avez été lauréate du prix Bettencourt il y a 10 ans.
2009.
2009, oui, c'est ça.
Je crois, 2009.
Donc, le prix Bettencourt, je pense que ceux qui nous écoutent le connaissent, c'est un peu le Graal hein, dans les métiers d'art. C'est le prix le mieux doté pour encourager des artisans d'art et souvent des artisans d'art pour le prix Intelligence de la main, des artisans d'art qui sont également des créateurs, avec une dotation qui, aujourd'hui, est de... qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. C'était pas le cas à l'époque.
Oh mon Dieu, non, pas moi, en tout cas. Ce qui était important, bien sûr, c'était la reconnaissance. Et puis, cette façon aussi de rentrer dans une espèce de famille. Enfin, moi, je suis une grande affective, en fait.
Ah bon?
C'est comme une famille de cœur. Puis, comme si c'était des gens qui pouvaient me soutenir. Et puis, c'est plein d'autres associations. Par exemple, rentrer dans l'Association des grands ateliers de France, trouver des complices, avoir de l'échange, du partage. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir partager. C'est un mot qui revient dans ma vie, mais tellement souvent. C'est vraiment identitaire pour moi, c'est singulier. Autant que mon travail est singulier avec la plume, comme une signature particulière, puisque elle est beaucoup tournée vers la poésie, c'est pas quelque chose que je construis spontanément, c'est quelque chose qui fait partie de ce que je suis, en fait. C'est mon message intérieur. Pour moi, les choses sont chargées, travaillées minutieusement pendant des heures, triées, lavées, chouchoutées une matière comme celle-ci, la faire vivre d'un seul coup une autre histoire, la transcender, la transformer, l'amener dans un ailleurs, faire perdre les repères aux gens d'un seul coup, ça crée une espèce de magie. Je ne fais pas exprès, c'est inscrit en moi. C'est très très fort en fait. Là j'en suis. Ouais, c'est très... tellement puissant. C'est tellement puissant tout ça en moi. C'est pas du discours. Là, on est obligé de parler. C'est pas ce que j'aime le plus. Parce que ce que j'aime, c'est aussi que les gens reçoivent quelque chose. L'énergie des êtres, pour moi, existe. On la voit pas, elle est invisible. Elle est très présente. Et dans les œuvres, ou dans les pièces, ou dans les choses que je peux faire, il y a ce message.
Bien sûr.
Certains le sentent. Il y a des gens même qui ça brûle. Mmh. J'ai déjà entendu ça. Une femme à qui j'ai fait un bijou me dit, oh, quand je porte votre bijou, je suis... je brûle. C'est fou. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mmh. Moi, j'ai toujours pensé que la plume, c'était un symbole porte-bonheur. J'ai beaucoup travaillé autour de ce sujet, d'ailleurs. Entre trèfle, porte-bonheur. Pour moi, ça véhicule quelque chose d'extrêmement sensible, comme un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est vraiment ça. Donc, ce partage, ce mot fabuleux, et tous ces gens donc, qui m'entourent, que ce soit la Fondation Bettencourt, les artisans d'art avec qui j'ai partagé des aventures professionnelles, des expositions, des collaborations. J'adore.
Il y a Wonderlab aussi, vous avez été de cette aventure-là.
Bien sûr, j'ai été dans cette aventure extraordinaire au Japon.
Ouais, cette famille des métiers d'art. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai découvert en y arrivant de l'extérieur et qui est extrêmement émouvant et qui fait que bah, j'ai choisi ce milieu-là pour destin. C'est extrêmement touchant parce que, en effet, habité comme vous l'êtes, forcément, vos œuvres, vos gestes, votre vie traduit tout cela. Et c'est le cas des artisans d'art qui, moi, me touchent le plus et qu'on essaye de faire parler ici, avec lesquels moi, je travaille tous les jours. Et c'est vrai que c'est un vrai cadeau de pouvoir être en contact avec vous tous.
J'espère en tout cas que votre ressenti sera partagé avec plein d'autres gens, bien sûr. Mais la rencontre avec le matériau, il est, pour moi, il est quand même très puissant.
Bien sûr.
Les porte-paroles, c'est important. D'ailleurs, ces métiers d'art ont de plus en plus de valeur aux yeux d'un public beaucoup plus large. J'en remercie toute personne et tout acteur du métier. Voilà, c'est toujours des êtres derrière les choses. Il faut s'intéresser plus profondément à l'individu qui crée.
Mais oui.
C'est le vivant, enfin, quand la main a touché quelque chose, il reste quelque chose de cette main, il reste quelque chose de l'individu. L'individu est derrière cette main. On le ressent, je me souviens mes élèves quand elles faisaient des branches où c'était calibré, avec des cotes très précises. On devait reproduire comme ci, comme ça, avec un cahier des charges, des opérations. Quand je devais noter chaque pièce, je retrouvais la personnalité de chaque élève dedans.
C'est important ce que vous dites aussi, c'est vrai, on veut savoir qui sont les créateurs derrière les choses et je pense que la spécificité de notre secteur à nous, qui est le secteur des métiers d'art, c'est aussi ce geste, cette technique, cette exigence, cette rigueur, ces gestes transmis pendant des siècles pour avoir une certaine rectitude. C'est-à-dire que le fait que vous sachiez faire vous-même, vous, créateur des métiers d'art, donne une autre dimension aux choses.
Oui, faire. Faire, c'est un mot, c'est le seul mot. Faire, c'est s'engager, faire, c'est montrer, faire, c'est voilà. Enfin, je ne sais pas comment on éduque maintenant les jeunes dans les écoles d'art. Je pense qu'ils ont une vraie générosité aussi par rapport à ça. Et puis, ils ont un accès au savoir, un accès à la connaissance. À notre époque, il fallait aller en bibliothèque, fouiller des trucs. Mmh. De dingue, il fallait vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps, quoi, en fait. Puisque maintenant, on ouvre ce qu'on appelle un ordinateur ou un téléphone. Et hop, on tape Google, dis-moi tout.
Mais alors, ce qu'on ne pourra jamais trouver sur Google, et c'est pour ça que nous, on essaye de relayer au mieux le combat, justement, des élèves et des profs des écoles de métiers d'art, ce qu'on ne trouvera jamais sur Google, c'est le geste, c'est ce qu'on vient de dire. Mmh. Et ça, ça prend du temps. Et les écoles sont mobilisées, les élèves et les profs sont mobilisés pour dire que la réforme des diplômes des ENMAD, diplôme national des métiers d'art et du design, nuit à l'enseignement technique.
Le dessin, c'est une base incontournable. Voilà. Si on ne dessine plus, alors là, moi qui dessine, moi j'adore écrire à la main et je dessine. Enfin, je dis pas que je dessine, d'ailleurs, je dis que je gribouille. Je me sens très gribouille. Je gribouille partout, hein, faut pas me donner du papier.
Je sais, moi je les ai vus, vos projets présentés sur des grandes feuilles de papier de soie, ce qu'il y avait sous la main à ce moment-là.
Mais c'est ça, c'est spontané, ça c'est sûr. Non, mais le dessin et la défense des savoir-faire, évidemment, montrer le geste, enfin. Moi, je me souviens, j'entourais de mes bras, je faisais comme si mes mains sous les yeux de mes élèves étaient leurs mains, parce que tout petit détail d'intention du corps qui se plie, de la main qui ondule et qui fait comme ça, enfin, pour faire sentir, je touchais les doigts de mes élèves pour qu'elles contactent la matière, rentrer dans le sujet. Bien sûr, après, il y a toutes les règles d'organisation, de composition, des choses que j'ai mis en place hein, qui n'existaient pas vraiment. J'ai dû tout construire un petit peu, c'était succinct, mon enseignement, moi, dans les années 80. Ça, c'est une attitude. C'est chaque enseignant. Pour moi, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui sait transmettre cette petite flamme, qui donne envie aussi, motiver. Parce que moi, mes élèves n'étaient surtout pas motivés. J'ai passé des années à me battre pour leur donner envie, en fait. Pour les valoriser, pour les réparer. J'avais souvent des enfants cassés, brisés, qu'on mettait là, c'était comme un placard. Vous pouvez pas faire autre chose, vous avez pas le niveau, vous êtes pas bonne, vous savez pas ça. Oh, c'était impossible, je pouvais pas. Non, j'avais beaucoup comme mission d'aider. Je pense qu'on aurait pu faire un métier d'aide et de soins. Pour moi, la plumasserie, c'est quelque chose qui soigne.
Mais est-ce que c'est pas ce que vous avez fait, en fait ?
J'espère, peut-être, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est un médicament. La beauté, la beauté, c'est un sujet particulier. Hein. Enfin, on peut décrier cette histoire de beauté. Moi, je sais que c'est comme une ligne de conduite. Chercher dans la nature ce qu'il y a de beau, ou même de un peu cassé, hein, des branches trouées, des choses percées, abîmées, des cathis. J'y vois de la beauté, en fait. C'est une façon d'être, c'est une façon de regarder les choses. Voir la beauté, c'est particulier. Et puis, être capable de s'émerveiller de ce que cette nature a pu créer autour de nous, c'est un sujet maintenant qui est très vif. On est tous en train d'espérer d'être dans la nature. Et donc, dans le beau de ses plumes, de ses plumages, de ses réalisations ou pas, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me fait voyager, C'est une exaltation telle que c'est pas décrit. Enfin, je peux pas le décrire. Mmh. C'est quelque chose que chacun peut découvrir. Les enfants, ils voient tout, ils comprennent tout. Les enfants ont des yeux qui voient tellement petites choses, tellement de détails. Faut écouter les enfants.
Et écouter l'enfant en soi, je crois.
Ouais, moi ça c'est, ouais, ça l'enfant en soi. Beaucoup d'entre nous l'avons, mais on est perdu dans nos grandes sociétés là, qui nous agitent, on est trop nombreux.
Trop nombreux. Nelly, alors il y a eu une consécration sur cette route-là dont nous n'avons pas encore parlé, c'est que vous avez obtenu le titre de maître d'art.
Oui.
Première plumassière maître d'art.
Non. Non. Le premier maître d'art, c'est Monsieur Le Marié.
Ah d'accord.
Ok. Monsieur Le Marié, son élève, c'est Charles-Éric Donatien.
Ah bien sûr.
Que je connais bien. Enfin, ces maisons que j'ai pu visiter parce que j'enseignais, que je mettais des élèves en stage. En fait, on formait pour ces maisons.
Donc, bien sûr.
Même si je formais 5 élèves par an, trouver une place.
Ouais.
Pour les ateliers.
Il fallait avoir des bonnes relations avec les ateliers pour mettre les élèves en
stage.
C'était
tout petit.
Ouais.
La maison Le Marié, il y avait deux tables, deux grandes tablées de, je sais pas, je vais dire 12 mètres, très serrées, tout petits, avec des fleuristes d'un côté et des plumassières de l'autre.
D'accord.
Et d'ailleurs, il fallait que les ouvrières sachent faire les deux. Notre formation de base, la mienne aussi, c'était 2 ans, fleurs et plumes. Et après, la dernière année, on choisissait une spécialisation, soit de fleuriste, soit de plumassière.
Donc fleuriste, juste pour expliquer, c'est les fleurs en tissu, les jolis pétales d'organza, gaufrés, c'est les camélias de Chanel, en gros.
Oui, c'est ça, tout à fait. Pour une reconnaissance facile, voilà, c'est la marque de fabrique de Chanel, c'est le camélia Chanel. Cette façon de gaufrer, bon, bah, ça fait partie de mon savoir-faire, même si voilà, j'en ai utilisé un peu, des outils d'ailleurs, ces derniers temps. Donc, on peut mixer des choses et, pardon.
Et donc, maître d'art.
Maître d'art.
Vous avez un élève, plusieurs élèves, comment vous avez transmis dans ce cadre-là?
J'ai transmis à une personne parce que, comme toute société, il faut donner la place à d'autres maîtres d'art pour former d'autres élèves, puisqu'il y a un petit financement qui aide le maître d'art à acheter du matériel, de l'outillage ou à payer à un moment des choses pour l'élève. Enfin, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi. D'ailleurs, c'est l'élève même qui est venu me chercher pour que je passe ce concours de maître d'art.
Ah oui, parce que c'était une solution pour financer cette transmission.
Parce que c'était une solution pour elle, pour dire « je pourrais être formée par vous ». Et puis, quand j'ai pris connaissance de ce qu'était ce titre, c'était très bien. Ça m'a permis de regarder un peu en arrière et surtout de prendre conscience d'un seul coup de tout ce que j'avais fait. Parce que quand on avance chaque jour, on ne regarde pas en arrière. On avance, chaque projet est nouveau. Moi, devant chaque projet, je ne sais rien faire. Devant chaque projet, je suis toute neuve, toute nue, toute frileuse, toute affolée. Tout un tas de choses. Et là, maître d'art, j'ai dû regarder, chercher des images, récupérer des choses. Et même, j'ai pris conscience que j'avais fait ces choses. C'était assez poignant. Donc, cet élève m'a aussi beaucoup aidée dans ce travail d'organisation pour passer ce concours. Et puis, j'ai été maître d'art. J'ai pu la prendre une année. Elle n'a pas voulu rester les 2 autres années. Voilà, des fois, on n'a pas réussi à switcher ensemble. On n'a pas réussi à s'entendre peut-être humainement, à se comprendre. Je ne pouvais pas enseigner à cette jeune femme comme j'enseignais à mes élèves de 14, 15 ans. Elle avait déjà une trentaine d'années ou presque. Et elle avait des attentes très précises. C'était très compliqué.
Voilà, elle est restée plus matière après ?
Elle avait fait une formation de modiste et elle m'avait dit « Moi, je serais modiste et je... c'est juste pour savoir faire de la parure pour mes chapeaux. » Et puis finalement, je pense qu'elle a été prise par le matériau. C'est une excellente main qui travaille très très bien, qui fait des très très belles choses. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très proche de... Il y a des signatures particulières en fait. C'est quelque chose qui nourrit l'être. Mes élèves, quels qu'ils soient, hein, que ce soit Émilie ou d'autres.
Donc elle s'appelle Émilie comment ?
Émilie Moutard-Martin.
Bien sûr, je ne savais pas que c'était de votre élève.
Et Émilie, bon, elle n'aime pas que je dise « Pardon Émilie, je suis désolée, mais moi je n'ai pas honte de dire que tu as été mon élève, un des maîtres d'art. » Même si on n'a pas vécu une belle histoire à la fin, que ça n'a pas été rayonnant comme je l'aurais espéré, peut-être
mais
comme elle l'aurait
espéré.
Mais c'est
très beau de nous en parler au contraire.
Je suis
la
quelqu'un
réalité.
D'extrêmement sincère et honnête, ouais. Même si voilà, j'ai du caractère forcément... les blessures de la vie, c'est comme ça.
Ouais. Et la transmission, surtout, c'est important, je trouve, de parler en réalité de la transmission, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, mais c'est pas du tout les bisounours, la transmission dans les métiers d'art.
Oh non.
C'est très difficile.
Je suis pas la seule. Hein,
je le sais. Ouais.
Dans cet exemple de difficulté. Après, voilà, les êtres sont les êtres. On doit voler de ses propres ailes à un moment. Après, on trouve une complice pour toute sa vie, c'est merveilleux, tant mieux. Ben, voilà.
Ouais, mais c'est rare. C'est rare ici.
Oui, je pense que c'est rare. C'est des âmes qui se rencontrent.
Ouais.
Et puis, il y a des égos, il y a des choses à faire passer qui sont... Voilà, moi, je respecte. On prend du recul aussi. On apprend dans la vie. On apprend tous les jours. On apprend sur soi, on apprend sur les autres. On vit des événements qui nous bouleversent. Et puis, on est abîmé par ces éléments. Enfin, moi, j'ai plein de cicatrices partout, quand même. Je me sens pas un roc. Même si je suis extrêmement courageuse, volontaire, déterminée, mais cette sensibilité, elle me chavire. Elle fait partie de ce que je suis, je ne peux pas être une autre personne. Je suis entière. C'est rude, je dis c'est rude. Je suis joyeuse, c'est explosif. C'est triste, je suis très triste. Je ne sais pas de demi-mesure. Je ne peux pas jouer une carte comme ça, de serpent ondulant. Je ne sais pas faire. C'est ça, être entier. Ça peut effrayer. J'ai dû en effrayer plus d'une, mais derrière, enfin, beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, beaucoup d'intérêt pour l'autre en fait. J'aime les gens, je pense.
Où est-ce que vous avez mal le soir, Nelly Saunier ?
Oh mon Dieu, si j'ai mal ! Oh, mon Dieu, mon corps est une souffrance.
Ouais. C'est très
sûr, 16 heures sur une chaise, 15 heures, enfin, ça paraît impossible. Hein. Mm. Je vous assure que quand j'avais 30 ans, c'était, je sais pas où je puisais mon énergie, c'était fou. Je pouvais me hisser d'un bras. J'étais explosive. J'ai une de mes anciennes élèves qui me dit « On ne pouvait pas te suivre, hein. c'était pas possible. Hein. » Mais moi, je me rendais pas compte. Pour moi, tout le monde devait être comme moi. Enfin, c'est un truc intérieur, on est tous plein d'énergie, plein de courage. Enfin, quand on perd cette énergie, quand d'un seul coup, c'est dur de se lever, de tenir, de rester debout. Des fois, je suis debout 30 heures en train de trier, laver des plumes dans mon atelier. Et à la fin, j'ai mal aux jambes, forcément. Puis, j'ai pas le temps d'aller marcher. C'est éprouvant. Une jeune fille de 15 ans, un jour, est venue m'aider ici, trier des plumes. Elle me dit, c'est fatigant, hein, ton métier.
Ouais, oui, c'est
elle découvrait que c'était fatigant. Ouais. Enfin, du coup, c'est fatigant pour elle physiquement. Ça a été, après, c'est une acuité, voir telle plume qui n'est pas droite, telle plume qui est tordue, telle plume qui est la bonne ou la mauvaise. Mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Tu observes. C'est de l'observation. Donc, c'est du temps, tout ça. C'est du temps. Et le corps, bah oui. Le corps, il parle. Hein. Le corps, il souffre.
Nelly Saunier, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ?
Une fée des métiers d'art. Ben, ouvre-la bien maintenant. Aujourd'hui, je dis particulièrement aujourd'hui parce que le souhait d'être heureux pourrait paraître à tout un chacun quelque chose qui m'arrive dans ma vie. Être heureux de faire, ça c'est certain. Mais être heureux de continuer de faire et de pouvoir faire, ça c'est un leitmotiv et une recherche permanente. Je pense que tout artisan a envie de continuer à être prolifique, créatif, courageux. Engagé pour les métiers, engagé vis-à-vis des gens. Et pas simplement des choses qu'on va faire dans la vie, mais de tout ce qui nous entoure.
Donc continuez à être vous-même, en fait. Parce que vous y êtes déjà bien, hein, dans le bonheur de faire. Je sais pas si j'ai compris ce qu'elle devait faire, la fée. En tout cas, ce qu'elle peut faire là, c'est inviter ceux qui nous écoutent à découvrir votre extraordinaire travail. Si on veut acheter vos pièces, comment on fait ?
On m'appelle.
on appelle Nelly Saunier tout simplement. Et peut-être que si on est à Paris, on peut avoir rendez-vous dans son atelier pour voir les pièces. Les premières pièces qui sont absolument magnifiques, et je pense que moi, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de craquer dans les semaines qui viennent. Ça peut commencer autour de 1 500 €.
Oui.
En bas, on peut se projeter à posséder une œuvre de Nelly Saunier. C'est pas délirant, même si vous travaillez pour les plus grandes maisons.
Bien sûr.
Pour les plus grandes maisons de joaillerie, pour les plus grands couturiers. Il faut quand même qu'on se sente autorisé, nous, juste passionnés des métiers d'art et qui avons envie d'avoir des beaux objets chez nous. Sentons-nous autorisés de venir voir votre travail parce que c'est possible d'acquérir une de vos œuvres, une de vos natures transformées. C'est comme ça que vous dites?
Oui, c'est comme ça que je les appelle.
Ouais. Voilà. Et ben, moi, j'encourage tout le monde à le faire et je pense que je serai peut-être la suivante, la prochaine.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci, Nelly Saunier.
À bientôt.
Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.